Le théâtre Prospero à Montréal est voisin du Village, le quartier emblématique des luttes queer de la ville de Montréal et même du Québec. Ce voisinage a-t-il une influence sur la programmation du théâtre ou la programmation du théâtre aurait-il une influence sur tout ça? On ne sait jamais. En tout cas, on peut certainement apprécier le nombre de productions du Prospero qui abordent des thématiques queer, dont cette année, on a surveillé Puni et Sur tes traces. Pour parler de tout ça, on reçoit le directeur artistique et co-directeur général du Prospero, Philippe Cyr. Bienvenue à l'émission.
Bonjour.
Alors, chaque nouvelle personne qui prend le micro ici, même si je sais, je vais quand même te demander quel pronom et quel accord tu utilises.
Pronom masculin, il.
D'accord. Ouais. Tu es à la direction artistique depuis 2021. Qu'est-ce qui t'a attiré au Prospero?
C'était, je pense, une envie en pleine pandémie d'avoir le contrôle puis de la liberté sur les créations, sur ce que j'avais envie de faire, sur ce que je pouvais insuffler à un lieu. Puis le théâtre Prospero, ça a été comme une espèce de canevas tout prêt à prendre, en charge, puis à développer, puis à imaginer la suite. Il y avait là une conversation qui était possible pour la suite des choses.
Alors, en quoi la programmation du Prospero diffère-t-elle de celle des autres théâtres ici à Montréal et peut-être ailleurs au Québec, là?
Je ne sais pas si c'est prétentieux de dire qu'elle diffère, mais en tout cas, ce qu'on essaie de faire, c'est d'avoir une réflexion sur, la limite des choses. Donc, dans la programmation, que ce soit à travers nos créations, dans les spectacles en accueil, on essaie de questionner la limite, d'avoir une espèce d'idée de comment se transpose la transgression, entre autres, dans le choix de nos projets. Donc, on va questionner des sujets qui sont parfois extrêmement compliqués, complexes à aborder. Par exemple, un spectacle qui a joué à deux reprises au Prospero, Homicide.
Ça allait aux limites.
Ça allait aux limites. Ouais. C'est un sujet extrêmement compliqué, très délicat à aborder, puis qui pourtant pose des questions absolument essentielles sur qui nous sommes en tant que société. Ouais. Donc, c'est le genre de projet qu'on aime mettre au devant, puis qu'on aime aborder, puis proposer au public.
Cette pièce, d'ailleurs, pour ceux qui ne le savent pas, aborde cette affaire épouvantable de le cas Rocco Magnotta, ouais, et qui est jouée avec brio par
Denis Boudreau,
qui a gagné même un prix d'interprète.
Exactement,
masculin.
Exactement,
oui. Plusieurs des pièces, donc, dont celle-ci, abordent des thématiques queer ou trans. Comment ça s'inscrit dans la mission ou dans l'œuvre de Prospero d'aborder ces thèmes-là?
Je pense que ça part entre autres d'une sensibilité personnelle. Hein. Je suis un homme gay, je suis entouré de personnes de la communauté queer, puis je pense qu'encore, il y a quelque chose de pas réglé hein, dans cette question-là. Encore de moins en moins, je vous entendais avec vos invités précédemment, ça s'en va pas dans la bonne direction. Donc, j'ai l'impression qu'on doit défendre cette parole, qu'on doit défendre nos identités. Elles sont multiples, on doit absolument les défendre et on doit proposer des projets qui ont des points de vue particuliers sur la chose. C'est entre autres ce qui m'anime dans ce qui est arrivé avec Safia Nolin à partir de toutes les insultes qu'elle a reçues durant les dernières années. On a voulu imaginer un projet, donc on a imaginé Surveiller et Puni dans une forme absolument surprenante où 21 choristes chantent les insultes que Safia a reçues au courant des années. Donc, c'est important pour moi de comprendre, de creuser, d'aller dans des coins, inexplorés des questions autour de la communauté queer.
Tu vas me permettre, parce que moi, j'ai vu ce spectacle-là qui m'a bouleversé, qui m'a troublé, et de rendre si beau, avec la belle musique et les beaux chants, des insultes épouvantables. Mm. T'as pas honte?
Non, j'ai pas honte parce que l'exercice en est un de sublimation. À travers la sublimation, il y a une façon de comprendre plus, au cœur de notre sentiment humain, au cœur de notre être, il y a une façon de comprendre plus largement ce que ça veut dire pouvoir recevoir autant d'insultes. Le spectacle s'adresse pas seulement aux personnes de la communauté queer, mais s'adresse à un large public. Et il y avait dans la salle des gens qui ne mesurent pas l'ampleur de ce que des personnes queer peuvent recevoir comme intimidation.
Ouais.
Et le spectacle sert à ça. Il sert à ça, entre autres, mais il y a un pouvoir, pour moi, en tout cas, de transformer. Il y a un empouvoirment dans ce spectacle-là. En prenant cette matière-là, on la transforme en autre chose. Alors, on prend un sac de poubelle, on prend des déchets, puis on les transforme en quelque chose de beau. Notre pouvoir, à nous, comme artistes, c'est un peu ça. C'est la transformation, s'approprier la matière, puis la changer.
Bon, tu l'as mentionné tout à l'heure, le climat actuel est vraiment pas facile. Mm. Est-ce que ça a un impact sur ce que vous faites, ce que vous recevez, je sais pas, des commentaires désobligeants? Est-ce que c'est difficile? Parce que vous êtes quand même dans la limite, là, des fois, de quand on parle de la transgression, là.
Je dirais qu'on a une belle communauté autour de nous. Okay. Ça peut arriver qu'on ressent, une forme de résistance, des fois dans le milieu scolaire, des fois de la part de certains abonnés. Il peut avoir une forme de résistance, mais je pense qu'au fil des années, on a réussi à créer une communauté qui était prête à entendre ces choses-là, qui était prête à se questionner aussi avec nous.
Je vais t'amener à quelque chose que vous faites au Prospero que j'ai trouvé génial, puis dans mon autre vie, je l'ai même emprunté. La tarification flexible.
Ouais.
Ça, c'est vraiment intéressant.
Ouais. Alors, on a voulu imaginer quelque chose pour que le prix des billets ne soit pas un frein à l'accessibilité des arts vivants. Souvent, c'est extrêmement cher. Mm. Puis, on a voulu décloisonner un peu ce rapport-là à l'achat d'un billet, faciliter la vie des gens. Donc, les gens vont sur le site, puis ils peuvent choisir le prix qu'ils veulent payer entre 25 et 50 $. Ça a rien à voir avec l'âge ni leur statut social, peu importe. Faut pas être étudiant, faut pas être aîné, vraiment. C'est accessible pour tout le monde. Nous, on ne demande aucune justification. C'est important pour nous que le rapport aux arts vivants soit d'une certaine manière décomplexé. Puis c'est pour ça qu'on a imaginé cette tarification flexible et accessible.
Et les résultats?
Sont très bons.
Oui?
Oui, on est presque à 96 % d'assistance cette année. C'est exceptionnel.
Donc, le prix du billet est moins élevé, mais il y a plus de monde, fait que ça compense.
Oui, puis je dirais que les gens... en fait, ça convoque une certaine réflexion sur notre responsabilité puis sur la valeur des choses. Mmh. Alors, les gens qui ont les moyens de payer un tarif plus élevé, ils vont le faire. Alors, ça contrebalance un peu pour ceux qui paient un peu moins cher.
Ah, c'est intéressant.
Ouais.
Cette année, depuis quelques temps, vous proposez des reprises de spectacles,
ouais,
dont,
ouais,
entre autres, Homicide.
Oui.
Pourquoi vous faites ça?
C'est tellement important. On investit tellement de ressources matérielles, oui, mais surtout humaines et créatives. Puis les projets, pour moi, ils doivent être vus par le plus grand nombre de personnes possible. C'est pas juste une question de, c'est pas une mesure d'austérité, là. On n'est pas en train de faire de la réduflation en faisant ça. Pour moi, quand on réussit à amener le projet devant le plus de monde possible, on se crée une espèce de bagage collectif. C'est comme si on rejoint le plus de spectateurs possible, mais ces gens-là vont avoir une espèce d'expérience spectatorielle plus large, plus développée, en voyant des projets comme Homicide, par exemple, qui est un projet absolument remarquable sur le fond et la forme. Il y a une expérience différente qui se développe. Puis ça, c'est important aussi pour la suite des choses. C'est important pour comment on envisage collectivement notre culture, aussi notre bagage culturel.
Bon, il nous reste une petite minute, mais comment la crise du financement des arts, ça joue là, sur le Prospero?
C'est terrible. En fait, on travaille avec sensiblement les mêmes budgets que 2017. On a un potentiel absolument énorme. On demande nos spectacles un peu partout, à l'international, ici en région. Les artistes nous demandent de donner davantage d'argent dans les conditions d'accueil. On n'est pas en mesure de répondre à la demande. Il faut qu'il se passe quelque chose de manière extrêmement urgente.
Ah, Philippe Cyr, directeur artistique et co-directeur général du Théâtre Prospero, merci d'être passé par chez nous aujourd'hui.
Merci à vous.
Merci.